Une fleur dans un champ d'herbe, par Richard Keller, chapitre 28. En cette nuit du 12 juillet, il fait chaud sur le bocage. Aurélie et Guillaume rejoignent leur chambre. La jeune femme a retrouvé ses formes. Elle se déshabille lentement devant son époux. Ce dernier la désire encore plus qu'au premier jour. Par la fenêtre ouverte, elle se penche pour regarder les étoiles. Son homme la prend dans ses bras et l'emmène sur le lit. Ils font plusieurs fois l'amour. Ils se donnent l'un à l'autre sans retenue. Épuisés et rassasiés, les amants se cajolent en se regardant au fond des yeux. Elle se lève d'un bond, se plante devant Guillaume en prenant ses seins dans ses mains. Surpris, il regarde son épouse. Quel nouveau jeu va-t-elle inventer? Elle lui montre sa poitrine qu'elle tient. Chérie, avec ça, je vais nourrir ton enfant. Je suis enceinte. L'époux, attentionné, comprend l'augmentation des formes d'Aurélie. Il se lève à son tour et l'étreint. L'amour vient de gagner son combat. Il exige que ce soit des jumeaux. Elle lui réplique qu'elle fera de son mieux. Si tel n'est pas le cas, le fautif se trouve en face d'elle. Guillaume, heureux et comblé, caresse le ventre de sa compagne pendant de longues minutes. Elle se trouve au comble de la joie et de l'excitation. Il faut encore une fois l'amour. Il partage tout en délicatesse et volupté ce merveilleux moment. La jeune femme déborde d'activité. Elle peint des tableaux d'une luminosité extraordinaire. Elle vient de terminer une toile représentant des fleurs au milieu d'un champ d'herbe, et sur le fond, le sourire éclatant d'un enfant. À droite, en haut du tableau, un corbeau s'éloigne à tire-d'aile. Comme il se doit, il tourne le dos à la scène. Elle expédie au loin les oiseaux de mauvais augure. Elle choisit des couleurs chaudes pour exprimer sa vision du monde. Elle ne bronze plus derrière la cuisine. Elle a transformé l'endroit en un jardin floral. Elle donne libre cours à son sens artistique. Elle veut tourner aussi cette page de sa vie. Le vieux Louis le Boiteux ne pourra plus se rincer l'œil. Guillaume a labouré le pré où est mort Benjamin. Il en a fait un verger. Les pommiers vont fournir leurs premiers fruits dans 3 ans. À sa manière, il bouleverse les lieux du cauchemar. Madame Palu, la mère d'Éric, a tenté de revenir à son domicile. Elle a sombré rapidement dans une folie qui a obligé son époux à la faire hospitaliser dans un établissement psychiatrique. Joseph Palu souffre d'un cancer du pancréas. Ses jours sont comptés. Il a vendu toutes ses machines, à l'exception de l'ensileuse. L'homme ne surmonte pas sa superstition. Il ne veut pas transmettre le mauvais sort. Il a décidé qu'elle rouillera dans un hangar fermé à double tour. Il ne parle jamais de son fils. La plaie ravive des douleurs indicibles. Les malheurs tournoient au-dessus de leur tête. Il ne partira qu'avec eux. Début juin,
Johann Mauduit rend une visite aux époux Léchin.
Il essaie de convaincre Guillaume de le rejoindre au conseil municipal. Quelques élus souhaitent passer la main. Place aux jeunes, en quelque sorte. Guillaume apprécie la solidarité marquée par la municipalité et l'ensemble de la population. Il considère qu'il est de son devoir d'apporter un peu de son temps au village. Il regarde Aurélie avant de donner sa réponse. Elle abonde dans son sens. Il accepte la proposition du maire. Aux prochaines élections, il soumettra sa candidature au suffrage de ses concitoyens. Johann aborde ensuite l'organisation des festivités du 14 juillet. Il veut continuer la tradition du feu d'artifice. Cependant, il ne fera rien sans l'aval des époux Léchin. Il lui répond en cœur que la fête doit se dérouler.
Ce n'est pas faire injure à la mémoire de Benjamin.
Bien au contraire. L'illumination des cieux lui sera dédiée. Il s'apprête à se rendre au village. La nuit commence à tomber. Elle s'arrête chez le vieux Hector. Elle veut vérifier que tout se passe bien. Elle va de surprise en surprise. Une bougie dispense sa pâle lueur dans la pièce. Le tic-tac de l'horloge interpelle la jeune femme. Hector a remonté le mouvement. Le caisson brille et sent l'encaustique. Sur la table, une enveloppe blanche attire l'attention de la visiteuse. Le nom d'Aurélie apparaît, rédigé d'une écriture tremblotante. Elle ne la touche pas et pousse la porte de la chambre. Le vieillard s'est allongé les bras croisés, le sourire aux lèvres. Elle appelle Guillaume resté à l'extérieur. Lorsqu'il pénètre dans l'appartement de son grand-père, il est saisi par l'odeur de cire.
L'horloge semble revivre.
Elle sonne 10 coups. Il voit l'enveloppe et comprend qu'Hector s'est dirigé vers d'autres contrées. Ses sentiments se mélangent. La tristesse et la satisfaction le gagnent. Il éprouve de la peine de voir partir le patriarche. Il apprécie d'entendre le tic-tac de l'horloge. Le vieil homme délivre son ultime message. Faites tourner les aiguilles du temps, elles rythment la vie. Il salue longuement son grand-père en tenant Aurélie par la main. Le feu d'artifice commence sans eux. Elle récupère l'enveloppe et l'ouvre. Hector lui lègue sa bague de mariage et celle de son épouse.
Elle essuie ses larmes
et rejoint sa cuisine. Elle cherche à joindre le docteur Lecœur. Elle laisse un message sur le répondeur. Hector peut attendre les dernières fusées et le bouquet final.